De retour à l'émission de littérature, c'était des jolis sons, Karl, avec des cloches. Eh oui. Allô, j'entends plus.
Oui,
voilà, nous sommes donc en direct au téléphone avec Laurent Clotzer. Nous parlons de Issa Elohim qui vient de sortir aux éditions Le Bélial dans l'excellente collection Une Heure Lumière. Laurent Clotzer, merci beaucoup d'être en direct avec nous par téléphone.
Je vous en prie.
Quel est le sujet de l'enquête de la journaliste suisse Valentine Ziegler dans votre roman?
Son sujet, c'est... Vous voulez vérifier que je l'ai bien écrit, en fait, c'est ça? que je connais le texte.
Non, c'est pour une introduction, pour une mise en matière.
Alors, le sujet, c'est... Le roman, c'est l'exercice, effectivement, d'une enquête d'une journaliste suisse dans un camp de réfugiés en Tunisie, qui est un camp de réfugiés imaginaire, et où elle a cru... On lui a dit qu'un extraterrestre serait apparu. Et elle va tenter de pénétrer dans le camp pour rencontrer cet extraterrestre. Parce que c'est un sujet qui la passionne, les apparitions d'extraterrestres. Et elle tente de devenir une spécialiste du sujet. Donc là, incroyable, l'endroit où elle se trouvait, l'un d'eux est apparu et elle y va pour enquêter.
Cet extraterrestre, c'est Issa. Qui pourrait être Issa? Ou qui est-il supposé être?
Dans le cadre de cette histoire, en fait, le récit se passe dans un futur pas indéterminé. On est à quelques années, quelques dizaines d'années peut-être de maintenant. Et dans ce futur, il y a des attestations d'apparition d'êtres qu'on appelle des Elohim. Et beaucoup de gens, des attestations qui ne sont pas du tout sûres, et beaucoup de gens se demandent si c'est vrai, mais il y a une secte notamment qui les a mis en scène, et ils sont censés venir d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose d'eux, on ne sait pas grand-chose de leur espace d'origine, mais on sait qu'ils ont des caractéristiques particulières, il paraît que certains lisent dans les pensées, d'autres n'ont pas tout à fait de continuité temporelle, c'est-à-dire que ça leur arrive de disparaître à un moment pour réapparaître à un autre endroit un peu plus loin. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et ces Elohim, dont finalement on ne sait pas beaucoup de choses qui les différencient de nous, à part le fait qu'ils apparaissent comme ça, adultes ou en tout cas entièrement formés durant la nuit auprès de certaines personnes choisies, bien c'est... Valentine pense que l'histoire est peut-être inventée ou peut-être réelle, et ayant l'occasion d'en entendre parler dans ce camp de réfugiés, elle cherche à comprendre. Maintenant, qui ce sont, bien, je sais pas moi qui vais vous répondre, parce que les personnages se posent des questions, peut-être que l'auteur s'en pose aussi, et j'espère que le lecteur s'en posera également.
Alors, Issa est accompagné de trois autres réfugiés, Wissam, Mehdi, Joseph. Ils ont un rôle particulier, et ils fondent comme une fratrie avec Issa.
C'est un fait attesté au sujet des Elohim, que ceux qui l'ont vu apparaître, ceux qui ont assisté à l'apparition de l'Elohim, sont un peu ses frères de sang, comme ça, et donc se retrouvent malgré eux, parce qu'ils ne sont pas obligatoirement amis à l'origine, se retrouvent malgré eux regroupés et forment une sorte effectivement de famille particulière.
Alors, j'ai juste lire un petit extrait. C'est le moment où Marie-Claude, qui est un des médecins du camp, présente Issa à Valentine Ziegler, la journaliste, et c'est une autre des particularités des Elohim. Bref, j'ai vu le gosse. Il a 16 ans, mignon, avec un beau sourire et de grands yeux. J'ai voulu le prendre en photo, ils ont refusé, m'ont pris mon téléphone. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que j'aie une crise cardiaque, comme ce qui est arrivé aux gens de Rio. J'ai protesté, j'ai dû insister pour qu'ils me rendent mon machin, et j'ai pris le garçon en photo. Tiens, regarde. Sur la photo, un coin de tente, des sacs de couchage, deux jeunes hommes en jean et t-shirt encadrant un espace vide. Et il était assis là, au milieu de ces deux-là. On ne voit pas le troisième, il est à côté de moi. Un espace vide entre les deux garçons à la peau mate. J'ai récupéré la photo, zoomé, regardé, zoomé encore, analysé la photo avec des services spécialisés. Aucune trace de retouche. Marie-Claude en avait pris trois, toutes très semblables, toutes présentant la même absence. Cette histoire m'a plu, j'ai décidé de creuser. Voici ce que Marie-Claude raconte à la journaliste Valentine Ziegler. C'est-à-dire qu'une des particularités des Elohim, c'est qu'ils n'apparaissent pas sur les photos.
Parfois. Ils n'apparaissent parfois pas sur les photos, puisque Valentine va tenter de prendre Issa en photo plus tard et elle le verra bien sur les photos.
C'est vrai. Et alors, vous avez parlé également de ce don de disparition, c'est le swap. Vous expliquez que c'est le swap, que c'est une disparition soudaine d'un Elohim et que ça serait justement... une des constructions de votre roman, c'est que ça va tourner autour de ce fameux swap qui serait la preuve la plus importante qui ça est bien un Elohim, c'est ça ?
C'est ça, ça montre qu'ils ne sont pas comme nous. C'est-à-dire qu'un Elohim, si vous restez longtemps avec lui, il y a un moment il va disparaître, et en tout cas c'est ce que les gens qui croient aux Elohim racontent, il va disparaître de votre vue, comme ça instantanément, pour réapparaître quelques instants plus tard, généralement pas très loin.
Et là va apparaître un autre personnage important, un Suisse qui fait partie du gouvernement, Boris Derivaz. Qui est cette personne et qui intervient en faveur d'Issa ?
En Suisse, déjà, on ne prononce pas le Z final. C'est comme en Savoie. C'est Deriva. Et Boris Deriva, c'est pour moi, dans le récit, c'est un politicien de droite, très à droite, qui en fait occupe une responsabilité au service fédéral des migrations et qui n'est pas a priori très favorable à laisser venir des immigrés en Suisse, mais qui par le hasard des choses s'intéresse aussi beaucoup aux Elohim, notamment parce que sa femme est impliquée dans la secte qui les adore. Donc Deriva a une position très très ambiguë sur cette histoire, parce que a priori, on ne peut pas le suspecter de sympathie pour les immigrés, et en même temps, il est, comme beaucoup d'autres, fasciné par ces prétendus extraterrestres.
Et alors lui, il va chercher à tout prix à assister à la disparition d'Issa, il va à tout prix vouloir que Issa fasse un swap devant lui pour avoir la certitude, pour avoir la preuve ultime qu'il est bien extraterrestre.
Le problème, c'est qu'Issa ne peut pas le faire à volonté. En tout cas, les Elohim ne peuvent pas, donc ça se produit des fois comme ça, eux-mêmes ne s'y attendent pas, donc c'est une preuve qui n'est pas facile à obtenir.
Et alors, en créant cette fiction, c'est-à-dire en créant un migrant qui serait un extraterrestre, qui doit faire la preuve qu'il est bien un extraterrestre, on touche, et vous touchez par cette fiction, la question essentielle du migrant, qui, quand il arrive dans un autre pays, doit faire la preuve de qui il est, doit faire la preuve là où il est né, doit faire la preuve de ce qui lui est arrivé, alors qu'il n'a pas forcément de papier, qu'il n'a pas forcément d'éléments avec lui. Et là, vous touchez du doigt la question du migrant.
Oui, c'est effectivement, en fait, l'idée de ce récit est venue en étant en contact avec des personnes migrantes, des gens qui s'y intéressaient. Et en me disant, il y a certains pays comme la Suisse où c'est tellement difficile d'entrer que ce serait quand même plus facile de le faire en étant un extraterrestre. Et l'idée du récit, et si un migrant était un extraterrestre, ou s'il l'était peut-être, ou voilà, et comment est-ce que ça se passerait ?
Oui, parce que du coup, ce politicien, Boris Deriva, va essayer de faire venir Issa plus ses frères, Issa, Mehdi, Joseph, c'est-à-dire que c'est pas ses vrais frères, mais en tout cas, ils forment un ensemble, en tout cas tous les quatre. Il va essayer de les faire venir en Suisse pour pouvoir les étudier, pour pouvoir que le gouvernement suisse, les scientifiques suisses puissent étudier le phénomène Issa et essayer de découvrir comment il est extraterrestre, c'est bien ça ?
Oui, c'est l'idée. Et puis malheureusement, il va se rendre compte que c'est pas si simple, parce que même pour lui, qui est pourtant un politicien bien placé au service des migrations, il a du mal à faire bouger les lignes. Mais c'est tout à fait suisse, ça aussi. C'est-à-dire que les règles, c'est les règles, hein, puis c'est difficile de les contourner.
Et alors, parlez-nous un peu de cette secte, la secte d'Aion. Elle est fondée autour de la question des Elohim, et ils vont chercher à chaque fois des preuves que les Elohim arrivent sur Terre, c'est bien ça ?
Alors là, en fait, la secte n'est pas tellement mentionnée dans le récit. Donc si je vous raconte des choses, c'est des choses qui ne sont pas dans l'histoire. Dans le cadre de l'univers, en fait, où se passe ce récit, qui est un univers en fait, sur lequel j'ai travaillé dans plusieurs textes publiés, la secte d'Aion est effectivement, effectivement une secte d'adorateurs des extraterrestres qui, contrairement à d'autres, a eu raison. Enfin, ou a fait croire qu'elle avait raison. C'est-à-dire a réussi à produire des Elohim. Donc eux, ils en sont particulièrement. En fait, le tout premier Elohim apparu est apparu chez eux. Le récit mentionne son nom, il s'appelle Noïm. J'espère que ça dira des choses à certains lecteurs. Et la secte, c'est un peu, en fait, qui est une secte un peu assez minoritaire. C'est follement développé grâce à Noïm. Peut-être Noïm est particulièrement spectaculaire. Lui, le swap se voit particulièrement bien chez lui. Et puis, il s'accroche particulièrement pas aux photos. Et il est impossible de le filmer sinon en direct. Et donc, c'est impossible de l'enregistrer son image sur des vidéos, etc. Donc, il est beaucoup plus impressionnant que ça.
Parce que la manière dont vous avez envisagé les extraterrestres Elohim, elle est aussi particulière, elle est aussi étrange. En fait, un Elohim, il vient d'un endroit qui s'appellerait Arcadia, mais la manière dont il se transforme en homme fait que peu à peu, il devient humain et qu'il oublie, il n'a plus les souvenirs de ce qu'il était auparavant.
Oui, ça rend difficile de prouver qui on est à ce stade-là. Oui, tout à fait, c'est l'idée.
Ça devient difficile de prouver qui on est à la fois pour les Elohim, donc pour Issa, par exemple, là en particulier dans cette fiction. Ça devient aussi difficile pour prouver le phénomène. C'est tout le problème de cette journaliste, Valentine Ziegler. Elle va être confrontée notamment à quelqu'un d'autre qui a enquêté sur les Elohim et qui a produit un livre qui s'appelle Faker. Et c'est le livre qui va essayer de démonter cette question.
Oui, parce que en fait, j'aime bien dans un récit pouvoir présenter plusieurs points de vue. Donc, les Fakers, c'est un livre produit par j'ai oublié le nom du personnage, c'est un livre produit par un journaliste enquêteur type anglo-saxon. Et lui, il arrive tout à fait à prouver par toutes sortes de témoignages, d'enquêtes, etc., que les Elohim, en fait, que tout ça a été monté de toutes pièces. Bien sûr, c'est lui qui dit qu'il le prouve.
Parce que ce problème-là, il se rencontre dans l'ufologie. Toute la question ufologique depuis 1947 en Occident, c'est les ufologues qui cherchent à avoir des preuves donc scientifiques, de type scientifique, pour prouver l'existence de phénomènes des soucoupes volantes, mais pour prouver aussi, par exemple, l'existence de probables abductions, c'est-à-dire de probables enlèvements par des extraterrestres. C'est le cas Bethil, par exemple. Ces personnes-là cherchent toujours la preuve qui explique le phénomène de manière sûre, de manière certaine, et c'est la question que vous posez dans votre récit.
Alors, j'avais pas pensé à l'ufologie, en fait, qui est un sujet que je connais pas du tout, mais en même temps, c'est un sujet qui m'a intéressé, que je n'ai jamais creusé, mais le fait est que c'est comme tous ces phénomènes, qui sont attestés par peu de gens et qui sont difficilement reproductibles. À ce moment-là, il y a une dimension d'adhésion en fait au phénomène. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
Parce qu'il y a un phénomène psychologique qui est évident. Il y a un effet de type psychologique dans ce type de rencontre. C'est que ça transforme les vies des personnes qui ont ce phénomène en face des yeux. Pour cette journaliste, Valentine Ziegler, elle va tourner autour de cette question. Elle sent que ça peut transformer sa vie à partir du moment où elle est sûre du phénomène. Or, toute la deuxième moitié de votre texte, Laurent-Claude Zer, c'est justement qu'elle n'est pas sûre du phénomène parce qu'elle va rencontrer des personnes qui vont lui expliquer que finalement, Issa, ça peut être qu'un magicien, ça peut être juste un réfugié qui va essayer d'être prédestigitateur, c'est-à-dire de faire croire qu'il disparaît parce que justement, en faisant croire que c'est un extraterrestre, un Elohim, il va pouvoir arriver en Europe, il va pouvoir avoir un passeport européen.
Bah oui, et moi, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire de savoir à quoi est-ce que les gens croient et pourquoi est-ce qu'ils y croient. J'ai lu des témoignages de gens qui avaient fait des rencontres avec des dauphins ou des gens qui avaient participé à des cérémonies, j'ai oublié le nom de cette religion brésilienne, une religion chamanique brésilienne, mais enfin, il y a plein d'autres cas. Il y a aussi le cas des phénomènes plus classiquement religieux, enfin, des miracles, ce genre de choses. Et en fait, effectivement, comme vous dites, quand on est en contact avec un phénomène, même si on n'est pas entièrement sûr, notre vie est déjà transformée. Et Valentine, étant une journaliste qui se pose des questions, ça permettait, en racontant son histoire, d'explorer les différents aspects et Enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est à quoi est-ce que le lecteur croit à la fin, qu'est-ce qu'il imagine, quel est son choix, parce que le livre ne va pas donner de réponse.
Mais une des réponses qu'apporte le livre, c'est que le récit produit par Issa, ce phénomène-là de disparition, pourrait être un récit de fiction. C'est un des éléments c'est une possibilité, et c'est une possibilité qui est terriblement excitante. Moi, je l'ai lu sous le prisme des enlèvements par des extraterrestres. J'ai en tête le cas Betty Hill, dans les années 60 aux États-Unis, cette personne qui est le premier cas d'abduction, enfin, dit être le premier cas d'enlèvement par des extraterrestres. C'est un récit, et on peut imaginer, bien entendu, même plutôt avec certitude, que c'est un récit de fiction, mais néanmoins, ça a produit quelque chose, ça a produit un effet. Et il y a eu un narratif type, c'est-à-dire une histoire qui a été reprise par d'autres personnes. Et comme là, dans votre fiction, le cas des Elohim, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont reprendre le narratif type de l'histoire de l'Elohim qui peut disparaître et il suffit d'être un bon prestidigitateur pour le faire croire finalement.
Alors drôlement bon, d'après les experts que j'ai consultés, mais oui. Oui, tout à fait. En fait, ces histoires de narratif type, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans l'ufologie, il y a aussi l'affaire des soucoupes volantes qui n'ont jamais été des soucoupes dans les premiers récits de témoignages et qui se sont le narratif s'est établi par une série d'articles et puis d'images et tout ça qui ont été interprétés de travers et qui ont créé une espèce de base comme ça pour ce que c'est qu'un récit d'apparition d'objets volants non identifiés. Et pour les enlèvements par les extraterrestres, c'est pareil. Et là, j'ai juste suivi cette pente naturelle. C'est imaginer qu'à partir du moment où une personne ou deux auront rencontré un Elohim, il est probable que d'autres récits du même type se mettent en place.
Quelle est la place de ce texte-là, Issa Elohim, Laurent-Claude Zer, dans votre œuvre, qui est déjà importante? Est-ce que ça peut être une novella qui est une résurgence de vos textes principaux?
J'ai un futur, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire que dans les textes de science-fiction que j'écris moi ou sous le pseudonyme L.L. Kletzer, ils prennent tous comme cadre le même futur. Et c'est le futur qui parle notamment des Elohim, mais aussi de nombreux autres. Enfin, il y a de nombreux autres éléments qui le caractérisent. Et ce futur, c'est une matière pour raconter des histoires sur des sujets qui m'intéressent à un moment donné. Et là, il y avait cette question des migrants. Je pense pas dire quoi que ce soit de nouveau ou de très fondamental dessus. Cette histoire, et c'était surtout une manière pour moi de rendre hommage aux gens que j'avais rencontrés et de leur montrer, enfin, de leur montrer ce que j'avais compris de ce qu'ils m'avaient dit. C'est une manière de retourner vers eux. Donc voilà, et naturellement, cette idée de récit, c'est ancré dans mon futur parce que j'avais déjà, une fois qu'on a un cadre, qu'on a un univers, qu'on a un vocabulaire, c'est plus facile de le réutiliser que de créer un cadre complet à chaque fois. Et puis, le texte est une novella, c'est-à-dire un court roman ou une longue nouvelle, suivant l'angle sur lequel on le regarde, qui est, en réalité, je dois l'admettre, ma forme narrative préférée. C'est la longueur sur laquelle je suis le plus à l'aise.
Et cette longueur s'inscrit bien dans cette collection d'Olivier Girard, Une heure lumière, aux éditions Le Bélial, c'est bien ça?
Exactement, oui. La novella, c'est vraiment une des formes très caractéristiques de la science-fiction. Et il y a beaucoup de très très bons récits qui sont de récits très connus qui sont en fait des novellas. Et beaucoup d'auteurs qui ont excellé dans ce domaine. Enfin, notamment au Bélial, je pense à Lucius Shepard, qui est un très grand auteur contemporain de fantastique, de science-fiction et de littérature en général. Et c'est une forme qui est très séduisante parce que elle permet de développer beaucoup d'idées, de développer un récit sans avoir besoin sans se perdre dans des bavardages inutiles. Moi, et je pense que c'est vraiment une très très bonne. Enfin, moi, je suis très reconnaissant à Olivier Girard et à les éditions du Bélial d'avoir fait cette collection parce que réussir à publier des novellas en tant que novellas et puis trouver un moyen pour que ce soit joliment fait, bien, que ce soit de beaux livres, que ça contienne, pour pouvoir rendre visible certains de ces textes classiques de science-fiction. C'est vraiment une très belle occasion, et donc je suis très très fier qu'ils aient accepté mon texte au milieu de leur collection.
Merci beaucoup Laurent Closer, merci.